Georges Baume. Gloire n'est que fumée. Chapitre 1. Il y eut de l'émotion de Pézenas le jour où l'on apprit le mariage de Durante. Car c'est folie de prendre un homme à 50 ans. Et quel homme ! Le dragon Marbois, un fainéant de 5 pieds et quelques pouces qu'on rencontrait dans toutes les fêtes. Comme il allait, avec son appétit de bon vivant, dévorer la fortune de sa femme. Durante, toujours vêtue de satinette noire, coiffée d'un bonnet noir à bandeaux blancs, ne quittait guère le seuil de sa mercerie, le ruisseau de la rue Saint-Jean, dont elle chérissait les boutiquettes, abritées de rideaux et de glaces poudreuses. Comment donc s'était-elle laissée séduire par un homme qui ne recherchait que le bruit des cafés et des foires ? Tous les voisins déblatéraient avec colère, sans comprendre que leur ami tâchait, en prenant un protecteur, de se soustraire à leur demande d'emprunt, qui se faisait de plus en plus excessive. Ce soir, pendant qu'ils se reposaient devant leur porte, le dragon se présenta, superbe, le front découvert, sa veste de coutil flottant comme du linge à la lessive. « Bonsoir, la compagnie » salua-t-il de haut. « Bonsoir, bonsoir !» grommelèrent les camarades. Il entra dans la boutique de mercerie où l'on distinguait, aux lueurs de la lampe, les marchandises sur leurs étagères, le comptoir jaune, la petite table ronde. Au bruit de sa voix caverneuse, Durante avait tressailli. « Ah, c'est vous, monsieur Marbois ! Tais, remettez-vous, je vous prie, là, sur cette chaise !» Ils s'assirent l'un en face de l'autre, les yeux brillants de gaieté. Durante montrait avec un peu d'ostentation ses mains fines gantées de mitaines et, sous le prétexte de rire, ses dents blanches que l'usage de l'eau avait conservées intactes. Lui a pointé ses moustaches brunes, bombé sa poitrine avec orgueil. Lorsqu'elle eut rempli deux verres de ce vin doré de Limoux, aussi pétillant que le champagne, elle parla de sa voix flûtée de marchande qui flatte la clientèle. « D'abord, monsieur Marbois, je vous avoue qu'on me blâme de me marier. On raconte que vous n'en voulez qu'à mon argent. »« Qui a dit ça? Que j'aille lui demander raison. Vos amis, voyez-vous, ont l'habitude de vous dépouiller, tandis qu'avec moi, hein ?»« Bah, laissons médire le monde. Combien gagnez-vous dans votre profession de commissionnaire en vin ?»«
Ça dépend du phylloxéra. Quand il baisse, je vais jusqu'à 2000 francs. » Les années maigres, j'atteins les 1500.
Alors nous serons bien tranquilles. Et dites-moi, voulez-vous que je vous fasse encore un aveu? J'ai toujours peur, étant seule, d'être assassinée.
Assassinée? Qu'on vienne vous voler seulement un centime.
Durante frissonna de plaisir. Elle se sentit jeune et forte, avec la croyance de vivre longtemps dans une clarté de paradis. « Comment nous arrangerons-nous » dit-elle. « Puisque les bénéfices de mon commerce nous suffiront, nous placerons vos rentes à la caisse d'épargne. Mais, voyez-vous, nous devons nous garder des voisins de la rue. Ce sera facile, car ils ne m'aiment guère. Tout de même, je saurai les dominer par les menus services qu'on peut rendre sans qu'il en coûte un liard. Moi, j'ai tant de relations. » Et puis, quand j'aurai, en qualité de capitaine de pompiers, reçu la Légion d'honneur. Le dragon se rengorgea, fit de ses opulentes épaules une sorte d'élan, pour bien détacher en relief sa tête rouge, aux traits accentués, aux cheveux touffus. Durante vraiment l'admira, cet homme, qu'elle estimait déjà autant que sa vieille maison.
À la Noël, reprit-elle, nous pourrons nous marier.
Je serai décorée à cette époque. Ils échangèrent un dernier adieu et se séparèrent en se serrant les mains. Dans la rue, Marbois fit claquer son rire. « Ça y est » s'écria-t-il. Les camarades le félicitèrent, applaudirent tous ensemble comme au théâtre. C'était le gros chapelier Garrigue, le maigre et petit coiffeur Campal, Fabarotte le peintre, si joufflu sous sa casquette. « Tais, nous aurons un bon voisin de plus. Durante est si brave. Tant mieux qu'elle se marie. » Tant mieux!
Marbois s'esclaffa de nouveau et, très amusé par le désarroi du voisinage, décampa. À peine eut-il disparu que les camarades, dans l'encoignure des deux maisons des Garrigues, chuchotèrent leurs plaintes. L'heure d'ailleurs était propice au commérage. Dans la nuit, à la chanson du ruisseau, le bec de gaz répandait un léger brouillard de lumière où toutes les têtes s'abritaient, confondues. « Moi, déclara Garrigue, je prétends que Durante nous trahit. Elle aurait dû nous prévenir au moins. Oui, comment veut-elle que nous lui remboursions tout notre argent d'une seule fois ?»« Et avec qui se marie-t-elle » poursuivit Fabarotte. « Avec un dragon qui n'a jamais été soldat et qui, vous le verrez, deviendra le premier personnage de Pézenas. » Fabarotte disait vrai. Ce dragon n'avait jamais porté la moindre épaulette, mais, bravache, il ne parlait depuis son enfance que d'assauts et de batailles. Au collège, ses condisciples, en se moquant de son allure martiale, avaient proclamé qu'il serait plus tard un beau dragon. Ce qui n'empêcha point qu'au tirage au sort, son père épuisa ses économies pour lui acheter un remplaçant. Alors il s'en alla séjourner en Afrique, d'où il revint plus fier que devant, les moustaches en croc et la peau bronzée. On recommença de l'appeler le dragon. Il savait des sonneries de caserne, racontait avec verve des prouesses d'aventures au désert, simulait, la canne en main, des pas de charge et des galopades. Ses compatriotes finissaient par croire à la réalité de ses exploits et lui-même se glorifiait d'avoir été vaillant naguère sur les champs de carnage. Chapitre 2. Les fiancés n'attendirent pas la Noël pour célébrer leur mariage. Ce fut, au milieu de septembre, une affaire vite réglée. Lorsque le premier matin, Marbois parut sur la porte de la mercerie, tous les voisins s'approchèrent avec amitié. « Bonjour, dragon » saluèrent-ils. « Eh bé, es-tu content d'appartenir à notre quartier ?»« Oui, oui !»« Et Durante, comment va-t-elle ? Elle nous aime, tu sais, et nous le lui rendons, nous autres, va !»« T'es, justement, la voici !» Alors chacun s'empressa davantage, tendit la main jusque dans la boutique vers l'épouse nouvelle. Ce jour-là, franchement, la rue Saint-Jean ne connut que du bonheur. Le lendemain, quel changement ! Le dragon, en bras de chemise, les pieds dans des pantoufles, se présenta sur la porte avec un certain air de malaise. Il s'assit en bourrant sa pipe, le nez au soleil, et péniblement médita. Les voisins, pour le flagorner, s'approchèrent. Hey, « Hé, dragon, comment tu vas ?»« Pas mal. Ah, vous savez, maintenant que me voilà tranquille, je vais organiser à Pézenas une institution patriotique et sociale qui nous manque depuis trop longtemps. » « Oui, oui, les sapeurs-pompiers. Ah, ce Marbois, il en a des inventions. Et nous verrons si Paris ne se décidera pas à me décorer. Tu le mérites. Seulement, il faudra des fonds. » À ces mots, les flagorneurs, se souvenant de leurs dettes, flairèrent dans les projets de Marbois un subterfuge habile pour se rembourser lui-même d'un seul coup de filet. Ils se turent en faisant la moue. Fabarotte enfonça sa casquette, Garrigue se gratta le front, la femme de Campal renoua son tablier. « Eh bien, vous ne répondez rien ?»« Si, si, parfaitement. Tu as raison. Aux riches d'abord de donner leur obol. »« Nous serons les premiers, mais n'oubliez pas, vous, que Durante a été généreuse. » Fabarotte, qui ne pouvait retenir sa langue, s'indigna des hardiesses de Marbois. « Par exemple, Durante te permet de nous tracasser ? Où l'as-tu mise que nous lui parlions, nous qui sommes ses frères ? T'es, le dragon qui n'a jamais manié un sabre, comment saurait-il manier une pompe ?» On se mit à rire d'une ironie mauvaise qui sonnait la colère et la peur. Marbois a de telles insolences, toisa de haut ses boutiquiers de paille dont il vendrait les maisons en cas de résistance. Et lui aussi se mit à rire. « T'es, parbleu, c'est avec nos économies qu'il achèterait sa décoration. Tu ne veux pas être maire, par hasard ?»« Pourquoi pas ?» Au bruit de la dispute, Durante accourut, les poings aux côtés. « Eh donc, qu'est-ce que vous taquinez, Marbois ? Il est nouveau dans le quartier, voyons. » « Oh, peu m'importe qu'il regimbe, ils s'exécuteront. » Chaque jour, on se chicana sans avancer les choses. D'ailleurs, d'autres soucis harcelèrent Marbois. Vers la fin des vendanges, il entama sa campagne de courtier, avide d'apporter à la maison les bénéfices qu'il gagnait, disait-il, en se promenant des granges au château. Par malheur, il s'empêtra en de telles complications qu'il dut, pour se tirer des pièges d'un paysan, recourir à la pitié d'un collègue. Au bout du compte, il perdit 2 000 francs que Durante, naturellement, déboursa. « Quand je serai décoré, dit-il, tous les vignerons du Languedoc viendront à moi très humblement. »« Dieu t'entende !» soupira Durante. Marbois se mit à prêcher dans les cafés, sur les places, l'organisation des sapeurs-pompiers. Seulement, il dépensait beaucoup en beuveries, en jeux de cartes et de dominos. Durante, qui n'avait jamais eu un sou de dette, déboursait à mesure en grondant son maître. Mais celui-ci la flattait avec tant d'affection, sa poulette, qu'à peine avait-il confessé ses péchés, elle les lui pardonnait. Un soir, ayant rêvé de gagner au jeu les fonds nécessaires à son projet, il perdit une somme folle. Ce scandale, le lendemain, courut dans tout Pézenas. Durante, de désolation, tomba malade. Les voisins ricanèrent bien fort, par exemple, espérant qu'à la fin, les vieux époux se sépareraient. Les voisins se trompaient. Marbois soigna si tendrement sa Durante qu'elle remonta à la vie. Auprès de lui, dans le recueillement de la chambre, tandis que les mouches ronronnaient au dehors dans le soleil, elle vit par l'imagination briller sur l'habit neuf du capitaine la croix d'honneur. Quand elle fut complètement remise, le dragon la conduisit, à son bras, vers les camarades de la rue Saint-Jean. « Je vous amène, leur dit-il, votre amie, qui est plus vaillante encore qu'autrefois. »« Alors, tu vas mieux, Durante, nous autres qui avions peur, peu cher, que tu ne revoies plus le quartier. » Le dragon, de sa voix de centaure, arrêta soudain les caquetages. « Maintenant, nous allons régler nos comptes. » Ahuri, tous les voisins, du même coup, se turent, en un silence si profond que les chiens au bord du ruisseau se réveillèrent. « Vous feignez de ne pas comprendre, je vous dis qu'il vous faudra régler vos dettes. »« Par exemple, tais, qu'il faudrait nous piller celui-là et qu'il nous prend pour des voleurs. » Pendant qu'il protestait en courroux, les yeux hors de la tête, Marbois ramena sa femme au fond de leur boutique. Chapitre 3. Chose extraordinaire, le conseil municipal vota une allocation pour la compagnie de pompiers. La ville aussitôt s'émut en discussion et en querelle. Presque tout le monde approuvait l'initiative de Marbois. Certains contribuables, au contraire, et avec eux la rue Saint-Jean, appréhendaient avec terreur les centimes additionnels. « Tais !» gémissaient les voisins de Durante. « Pourquoi des pompiers dans notre Pézenas où il n'y a jamais le feu ? D'abord, par les assurances, on gagne toujours aux incendies. » Le dragon ne se troublait pas. Calme, dédaigneux, il fumait sa pipe sur le seuil du magasin ou bien lisait avec gravité sa correspondance avec M. le maire. Mais un jour, s'éleva dans la rue un vacarme de véritable émeute. Le facteur n'avait-il pas remis dans les maisons du voisinage des lettres signées par Durante, sûrement dictées par Marbois, où la mercière réclamait son argent avec menace de s'adresser aux tribunaux si, dans la huitaine, elle ne l'avait pas encaissé. Tous les voisins étaient sortis de leur boutique et pendant que les oiseaux étonnés s'égosillaient très fort dans leur cage, chacun, sa lettre à la main, sautait le ruisseau, trottait de porte en porte. « Tais, je viens de recevoir ce billet. »« Et moi aussi. Il est fou, notre Marbois. Ah, ça, est-ce qu'il aurait raison de nous ?» Marbois et Durante, dissimulés derrière leur vitrine, se divertissaient de voir les camarades en désarroi. Comment diable Garrigue avec ses chapeaux, Fabarotte avec ses peintures, Campal le coiffeur avec ses barbes, parviendraient-ils à payer leurs dettes? Cependant, l'après-midi fut paisible, embellie d'une ensoleillée que tamisaient, au-dessus de la rue, les tentes grossières des boutiques. Le soir, Garrigue et Gariguette, son épouse, pénétrèrent chez Durante sournoisement. Ensuite, tous les voisins, l'un après l'autre. Il n'y eut pas assez de chaises pour les rassembler autour de la table. Les hommes s'assirent sur le comptoir, même Garrigue, qui souffrait du poids de sa bedaine. « Eh bien, leur demanda Marbois, que voulez-vous ? Nous venons à cause de tes lettres, pardi. Ah, la justice, avec moi, c'est la justice. Quoi ? Tu nous traduirais devant les tribunaux ? Pourquoi pas, si vous montriez de la mauvaise volonté ? Car je sais quelle clientèle nombreuse fréquente vos magasins les jours de marché. Tais, la preuve que je ne suis pas un tyran, c'est que je concède que dans 8 jours... » Non, riposta Garrigue, dans 1 mois, nous te donnerons le quart de nos dettes. Oui, oui, tous. J'accepte, répondit Durante. Les camarades, au bout 1 mois, apportèrent fidèlement la compte promis. Quelle joie rayonna au cœur de Durante! Elle récoltait son argent qu'elle croyait à jamais perdu. Aussi, lorsqu'il fallut le retirer de l'armoire pour le verser à la souscription publique en faveur des pompiers, elle eut une révolte. Mais le dragon plaida pour la probité de son nom, la splendeur de l'avenir. « Allons, ma poule, sois raisonnable. Que dirait-on de nous dans Pézenas? Si je reculais, maintenant que je me suis engagé dans cette question patriotique, je serais déshonoré, je n'aurais plus qu'à te quitter. » Ah, peu cher, on capitule toujours devant cet homme. » Durante pleurnichait dans son tablier, tandis que Marbois, s'étant emparé du trésor de l'armoire, courait l'offrir à monsieur le maire. Puis, les jours suivants, il se démena si activement qu'à la fin du trimestre, sa compagnie de pompiers fut organisée, équipée, prête à prendre les armes. Et ce matin de Noël, avant la messe, où le doyen de la paroisse Saint-Jean devait bénir le drapeau, comme il resplendissait, le capitaine! Le tailleur, certes, ne lui avait pas manqué le costume. Une tunique de drap noir à boutons de cuivre, des épaulettes d'or, un casque d'or, le casque offert par le chapelier Garrigue, à panaches de pourpre et à crinière d'argent, des guêtres blanches, un long sabre à gland d'or. Grand, droit, tout rasé, il apparut tel qu'un César au soleil de la placette, sur les marches de l'église, devant ses 40 pompiers harnachés et graves. Les cloches se mirent en branle, et tout d'un coup, deux clairons sonnant en triomphe, la compagnie, d'un pas majestueux, entra dans l'église, sous la voûte illuminée. Marbois était le grand homme de Pézenas, digne d'aller à Paris. Tous les regards se tournaient vers son casque. Les camarades de la rue Saint-Jean s'étaient groupés autour d'un pilier et, de jalousie, ils se rongeaient les ongles, inquiets de l'argent qu'ils réclameraient peut-être encore pour sa gloire. Le sous-préfet de Béziers avait promis d'assister à la cérémonie. Au dernier moment, il s'excusa, alléguant un malaise. Le dragon, à cette nouvelle, défaillit au milieu du monde dans la douleur de penser que le gouvernement différait, une fois de plus, l'occasion de le décorer. Pourtant, à la vue de Durante, qui priait Dieu tout contre le pilier, il reprit courage. Dans la cour de la mairie, quelle surprise ! Marbois allait d'un geste rompre sa compagnie lorsque monsieur le maire, ceint de l'écharpe tricolore, s'avança parmi la foule haletante devant le front des sapeurs étonnés. Doucement, il exhiba de sa poche une petite médaille d'argent nouée d'un ruban violet et, d'une main tremblante, après avoir célébré les mérites des sapeurs, il la tendit à leur capitaine. Marbois frémit d'orgueil. Trop ému pour remercier, il embrassa le maire avec effusion aux applaudissements de la foule pendant que les soldats levaient leurs sabres qui étincelèrent en lames de feu. Enfin, ayant rompu sa compagnie, il voulut s'éloigner seul. Le peuple néanmoins l'escorta. Durante, plus belle que le jour de la noce, ses chaînes d'or au cou péroraient gaiement au milieu des camarades. Il faisait sur la ville une douceur de printemps. Le soleil baignait les boutiquettes noires, semait des étoiles dans le ruisseau. Mais les rumeurs de la fête emplirent le quartier. Deux, trois casques brillèrent au bout de la rue Saint-Jean et l'on vit apparaître le panache de pourpre, la crinière d'argent, par-dessus le flot des têtes qui dansaient. Marbois, le dragon Marbois. Durant, affolé, le chapeau de travers, courut embrasser son homme. « Allons, dit celui-ci en s'adressant au peuple, laissez-nous à nos épanchements de famille. » Le peuple docile se dispersa. Seulement, les voisins redoutaient davantage pour leur argent. Ne parlait-on pas dans la foule d'élire le dragon maire de Pézenas? Heureusement, il n'avait toujours dans son âme que l'ambition du soldat. « Vois-tu, déclara-t-il à Durante, un capitaine doit monter à cheval. » Toute la semaine, il apprit l'équitation sur les mules des maraîchers qui font, dans les jardins, tourner la roue des puits. Le dimanche, à la parade, il arriva beauté et décoré à califourchon sur le gros cheval de monsieur le maire. Le peuple était là pour l'admirer, une multitude de marchands et de villageois venus de toute la plaine. Durante, au contraire, dans la crainte de défaillir d'émotion, était resté chez elle. Les sapeurs s'étaient alignés, raides, éblouissants, sur la vaste place. Le silence, comme une prière, planait dans le soleil. Alors Marbois leva son sabre, cria un commandement. mais le cheval, par malice, se mit au galop d'un élan lourd et le dragon tomba d'une masse dans la poussière. Les sapeurs, à cette vue, se débandèrent, le peuple poussa des clameurs et des lamentations. Pauvre Durante, quatre paysans lui rapportèrent son époux mourant, le crâne fracassé. Les camarades, radieux au fond de l'âme, vinrent en chœur la consoler, car elle voulait mourir aussi dans le premier moment. On enterra le dragon 3 jours après, le linceul de la bière, revêtu de la tunique à boutons de cuivre, paré du casque d'or, du sabre, de la petite palme d'académie. Durante, le soir des funérailles, réclama ses reliques et les remit saintement dans l'armoire, qui était, hélas, presque vide de sa fortune. Désormais, pour éviter de lui rendre leur compte, les camarades l'invitèrent, à tour de rôle, chaque jour à leur table. Pour lui plaire, ils ne cessaient de lui vanter les vertus de Marbois. « La nuit, disait-elle, je le revois souvent. Maintenant, j'ai peur de rester seule. » « Tu n'as qu'à te remarier, » lui conseilla Garrigue. « Non, non, jamais, j'ai trop mal commencé. » Elle pleura, et nul ne savait si elle pleurait à cause du mort ou de son argent perdu, à cette heure de vieillesse et d'abandon.